s'est passé, passé beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer qu'on serait si vite confiné? On fait le bilan, confinement, dur d'être contestataire. On sait déjà une crise de nerfs, elle est devenue sanitaire.
Yeah. Capo. Spécial dédicace. Ah oui, on a écouté la chanson Personne des Negmaron, Jackie et Benji. Et spécialement dédicacée à la personne qui nous a fait le petit jingle qu'on a passé juste avant. Voilà, si tu nous écoutes, t'as du boulot pour réécrire cette chanson-là en entier et nous l'envoyer au 39-9@riseup.net. Et on sera très content d'avoir une version. Personne dans la vie ne connaît son destin, personne ne sait quand est-ce qu'on sera déconfiné. on peut toujours appeler aussi la radio au 07 53 15 33 68. Big up.
Ouais, peut-être juste une petite réaction par rapport au texte que je l'ai lu tout à l'heure. Bon, déjà, merci. Et puis, c'est marrant parce qu'au fait, la perspective dans le déconfinement qui ne vient pas, elle semble déjà... Enfin, au fait, elle a fait du chemin aussi, quoi. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui se l'imaginent, quoi. Que c'est vraiment pas une hypothèse improbable aujourd'hui. Enfin, je sais pas.
Après, ce qu'on disait hors antenne, c'est que demain, il va nous parler. Et il y a peut-être des gens qui sont accrochés aussi à ses lèvres pour voir ce qu'il a décidé. Mais bon, ouais, en fait, de toute façon, les médias ont bien préparé le fait que ça va encore durer, quoi.
Oui, avec ce qu'on se disait aussi hors antenne, avec les ballons sondes.
Voilà.
Le fait de lancer la discussion, enfin, en fait, de lancer des infos, enfin, des annonces qui ne sont pas déjà des décisions, mais qui préparent le terrain et qui testent un petit peu les réactions, comme cette histoire de... d'appli de backtracking dans les smartphones pour cartographier les contacts et les fréquentations des gens, ou comme je sais pas ce qu'il y avait d'autre comme annonce récente.
Moi, le dernier titre que j'ai lu d'un journal mainstream, c'était faudra-t-il travailler plus après le déconfinement. Donc peut-être qu'il faut s'imaginer qu'il y aura une nouvelle industrialisation. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai vu aussi qu'il y a des secteurs industriels qui se rapprochent de l'Italie là en ce moment et pour renvoyer des gens au taf, quoi. Mais enfin, c'est à vérifier, mais du coup, on peut imaginer qu'on va renvoyer les gens au taf à un moment, enfin, plus de gens au taf, quoi. Voilà, au moment où l'économie s'est un peu effondrée, tout recentraliser des trucs et tout, je sais pas,
ouais. C'est gay tout ça. Mmh. Et il y a comme une espèce d'anesthésie au niveau de notre capacité à réagir à tout ce contexte qui change très vite et avoir de l'imagination.
Mais je crois qu'on peut aussi aller chercher l'imagination en arrière. Et à ce propos, peut-être qu'on peut... C'était le moment ou pas ? Ouais ?
Ouais, carrément.
Entendre parler d'un groupe qui n'est pas très connu en France, mais qui a un peu fait du grabuge outre-Atlantique.
Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je vais lire un petit extrait du livre Ringo Levio de Emmett Grogan, qui, entre autres dans ses activités, hein, qui a fait pas mal de trucs, qui a bossé dans le cinéma, qui a été cambrioleur, toxicomane. Donc, qui a eu une vie assez mouvementée, mais qui a eu un moment à son retour aux États-Unis après quelques années de vadrouille, je crois qu'il avait 22 ans à cette époque, qui a monté avec quelques potes à lui du théâtre notamment. De la Mime Company, le groupe des Diggers, qui était donc selon une petite définition Wikipédia, donc qui peut être largement à revoir, un collectif contre-culturel anarchiste basé à San Francisco, actif entre 1966 et 1969. Voilà, qui s'est à l'époque pas mal illustré, notamment en faisant des grosses distributions de repas gratuits. Dans les quartiers de Haight Ashbury à San Francisco, voilà, tous les jours. Et du coup il nous parle d'un des premiers papiers, donc qui faisait des petits fanzines. C'était un peu le début des fanzines distribués gratos dans la rue. Et donc là, je vais vous lire un extrait d'un de ses papiers. Et du coup, avant, présenter un petit peu l'origine du mot diggers qu'on trouve un peu dans ce bouquin et qui s'approfondit aussi avec d'autres lectures après. Du coup, ce nom de diggers avait été avancé par l'un des membres de la troupe qui avait lu un bouquin d'histoire britannique traitant d'une commune du XVIIe siècle et trouvait que les idées que prenaient Emmett et Billy rappelaient celles que Gerard Winstonsley et William Everard et de leurs quelques centaines de disciples. Ces derniers, tant pour se nourrir que pour redistribuer le surplus de leur production aux autres miséreux, avaient commencé par cultiver le domaine communal qu'ils s'étaient approprié en 1649 aux alentours de St. George's Hills, dans le Surrey, donc en Angleterre, pour protester contre la hausse croissante et proprement atterrante du prix des denrées alimentaires. Cromwell et ses têtes rondes avaient répondu aux appels éplorés des négociants et fermiers locaux qui briguaient ces terres et voulaient les confisquer à leur profit en lançant leur armée sur ce petit groupe de hardis réformateurs agraires qui n'envisageaient pas moins que de, je cite, « se conformer sans autre forme de procès à la loi de justice en s'efforçant de rayer à tout jamais de la création cette part maudite qu'on appelle la propriété privée et qui est la source de toutes les guerres, de toutes les effusions de sang, du crime et des lois esclavagistes scélérates qui écrasent le peuple sous le talon de fer de la misère. » Voilà, donc une petite note de bas de page, le mot diggers, les terrassiers en français, mais aussi ceux qui creusent, entravent et comprennent. Dig marque à l'époque une distance sarcastique avec le hip des hippies, plus mystique et plus fumeux. Selon Peter Coyote, qui a écrit Free Fall Chronicle, publié sur Internet en 1998, et donc ça remonte quand même assez loin, les anciens diggers devraient leur nom au fait qu'on les voyait tôt le matin creuser des tombes pour leur mort de la nuit. Voilà, et là du coup on va lire un petit extrait du papier des diggers de San Francisco, donc pas de ceux de 1649, mais de ceux de 1966 à 1969. Du coup, le bouquin. Le plus fameux de tous les Digger Papers fut une réponse aux déclarations de soi-disant porte-parole de la communauté qui ne représentait qu'eux-mêmes et aux affiches opposées apposées dans les grandes vitrines par l'association des marchands HIP, Hate Independent Proprietors, les propriétaires indépendants de Hate, donc qui est le quartier de San Francisco. Affiche qui invitait les gens à convier un flic à partager leur repas, histoire de graisser les rouages des relations entre la communauté et les forces de police. Le papier publié par les Diggers disait « Inviter un flic à dîner, fliquer un invité à dîner, dîner un flic à inviter. Monsieur réponse à tout, quelle arme peut être 10 fois pire que la bombe H ? Pourquoi un con 10 fois plus large que la plus large des bites est-il possible, Mikey ? Dégoûtant, dit Mikey en embrassant le flic, contournant la difficulté. Invite un flic à dîner. Les gangsters invitent des flics à leur table, en leur graissant la patte, les macros en leur faisant tirer un coup à l'œil, les dealers en les faisant planer gratos, les hommes d'affaires en les régalant d'une gratification, les syndicats et la société invitent les flics à leur table en leur offrant une mise à la retraite anticipée, les écoles et les clubs professionnels en leur offrant des exos pour les événements sportifs et mondains, l'église catholique invite les flics à sa table en les exemptant de leurs devoirs religieux. Le garde des Sceaux invite les flics à sa table en pondant des décrets qui leur laissent la bride sur le cou ou presque. Le ministère de l'Intérieur les invite à sa table en les exonérant de leurs obligations militaires. Les journaux de l'Establishment invitent des flics à leur table en diffusant les images de flics amicaux, incorruptibles et affables. Les estaminets invite les flics à leur table en leur rinçant la gueule et les salles de spectacle en leur délivrant des exos. Les marchands invitent les flics à leur table en leur faisant des remises et des petits cadeaux. Les associations de quartier et les organisations sociales invitent des flics à leur table en leur permettant d'assister à des débats ouverts, offrant sur la vie de hippie, la drogue, l'underground, le militantisme noir et pénétrant aperçu bourré de préjugés. Les flics invitent les flics à leur table en leur garantissant une totale impunité pour leurs exactions et autres méfaits. Les flics s'invitent eux-mêmes à leur table en provoquant des émeutes. et donc que vous possédiez quelque chose ou que vous ne possédiez rien, invitez cette semaine un flic à dîner et fortifiez encore l'énergie qu'il met à juger, incriminer et brutaliser les gens dans vos rues. Nota bene, le gastronome Georges Metesky invite tout à chacun à ne pas commettre la même bévue qu'Al Nordchester qui servit le bon plat, mais au mauvais moment, les diggers. Et voilà, du coup, c'est un petit extrait du bouquin Ringo Levio d'Emmet Grogan qui est plutôt sympa. Et la suite dans le bouquin.
Rendez-vous dans le bouquin.
Ça me fait penser à... Au fait, je voulais en parler plus tard, mais je crois qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de faire une revue automédia. Donc de vous parler, entre autres, de la Gazette Déconfinée d'Ariège, mais pas seulement. Et du coup, je vais juste me limiter à lire un petit extrait que j'avais prévu de lire dans cette revue, parce que ça fait un peu écho à ce que tu viens de lire. Et comment est-ce qu'on invite les flics à notre table aujourd'hui ? Ouais. Enfin, là, concrètement, tous les jours. Et du coup, voilà, c'est un appel. C'est un appel à ne plus présenter son attestation de sortie. Et donc, je lis le petit extrait en question. Parce que notre parole a autant de valeur que notre stylo, parce que nous imposer à chaque contrôle de présenter un papier qui ne dit rien d'autre que ce que nous pouvons déclarer oralement, parce que ce contrôle tatillon nie notre responsabilité et notre sens de l'intérêt commun, parce que la rédaction quotidienne ou presque de cette attestation normalise à terme un contrôle permanent, parce que présenter systématiquement ce document aux forces de l'ordre nous fait incorporer ce geste, tant à en faire une habitude, parce que la normalité de demain qui nous est proposée et imposée désormais en mode policier et de contrôle encore plus quotidien n'est pas celle que nous espérons. Est-ce que la normativité délirante ambiante ne va pas transformer... Est-ce que la normativité délirante ambiante ne va pas transformer en maladie la folie ordinaire de chacun et chacune d'entre nous ? Est-ce qu'il va rester en nous après tout ça ? Voilà, donc ça c'était un extrait de l'appel à ne plus présenter son attestation de sortie aux flics. Donc ne pas... je ne sais pas si ça peut... si ça peut être interprété comme arrêter de les inviter à dîner et en général de leur donner à manger, quoi.
Ce n'est pas qu'une question de température.
Se vante dans tout ce grand éclat d'un siècle éblouissant. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? L'atmosphère n'est plus la même, et je m'embête. On m'a volé mon âme, on m'a volé l'amour, et toi, dis-moi que tu m'aimes.
L'homme s'évanouit, n'a pas de lendemain. Avec les yeux fermés, je ne sais pas ce qui se passe. Il me faut la chaleur humaine pour bien grandir. Il me faut la chaleur humaine pour bien grandir. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux? On m'a volé mon âme. On m'a volé l'amour. Et toi, dis-moi que tu m'aimes. Et dis-le-moi. L'atmosphère n'est plus la même. Je m'embête et je m'emmerde. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Je résiste à tout sauf à la tentation. Alors, il vaut mieux rester à la maison. On m'a volé l'amour, on m'a volé mon âme. Il me faut la chaleur humaine. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux? Mais tous ces progrès dont notre âge se vante, tout ce grand éclat d'un siècle éblouissant, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Est-ce que c'est dangereux? Ou est-ce que c'est sérieux? Toi tu veux être heureux? Mais est-ce que c'est dangereux? Oh, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Oh, dis-le-moi toujours. Il n'y a pas de lendemain. Mais ces progrès dont notre âge se vante, dans tout ce grand éclat d'un siècle éblouissant, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? L'atmosphère n'est plus la même, et je m'embête, je m'embête. On m'a volé mon âme. On m'a volé l'amour. Et toi, dis-moi que tu m'aimes. Et dis-le-moi toujours.
C'est Chichichipi et Amanda Lear, Inch'Allah, ça va. Et tout de suite, le taureau qui fonce encore.
Mais qu'est-ce qu'il s'en foutait? Puis dans le pré, un chien se casse la tête un autre chien vient pour manger, le chien ayant la tête cassée et à la avec ses copains, bien sûr. Nora n'aura pas. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Rien du tout, disa Julien. Mais non, c'est quoi ce bêtise? Mais rien, rien du tout, dit le petit lapin. Mais si, dit son copain. L'oncle Tarin, puis ses deux copains. Julien et le lapin partis au fond des nuages, roulent le long Tarin, et c'est ça qui devient rien.
Voilà,
oui, c'est déjà fini.
C'est tout pour aujourd'hui sur 39.9 Radio.
Vous avez échappé à plein d'autres lectures.
Mais il va en rester pour demain.
Et maintenant, on laisse la place à Pangolin, qui va venir juste après. Ouais. Voilà, big up à Pangolin.
N'hésitez pas à continuer à nous envoyer ce que vous voulez au 39-9 @riseup.net, vos sons, vos témoignages, coups de gueule, textes, analyses, tout ce que vous voulez. Et aussi, peut-être des réactions à ce qu'on peut passer à l'antenne. Enfin, c'est fait pour discuter, c'est un petit peu compliqué en différé à distance, mais c'est un petit peu le but.
Et on va essayer d'arriver à podcaster des trucs. Peut-être. Inch'Allah, ça va.
Des à bisous.
Demain.
Salut, salut, à demain.
Song, show me the way to go home.